Buenas noches, Radio Campus celebra el 50 aniversario de la Revolución Cubana.
L'intervention que j'avais plus ou moins prévue, j'ai décidé finalement de changer un peu l'angle d'attaque pour une raison simple, c'est que je n'ai pas l'habitude de parler de Cuba devant des Cubains qui en savent plus long que moi. Et d'une manière générale, j'aime bien faire parler les Cubains parce qu'in fine, ce qui m'a amené à la solidarité avec Cuba, c'est quand même les Cubains et différentes expériences. Ma trajectoire, le mien, était relativement classique, je pense, c'est-à-dire que je venais d'un milieu plutôt d'extrême gauche, d'un anticommunisme cubain primaire, d'un anticastrisme primaire, pendant de longues années, alimenté par les données qui nous étaient fournies par les médias, classiquement, et les interprétant de la façon qu'on me demandait bien de les interpréter, selon la vision tronquée habituelle. Mais il se trouve que j'ai croisé le chemin de la révolution nicaraguayenne, et que j'y avais mis les pieds dans les années 70-80, et j'ai pu me rendre compte sur place à quel point la déformation ou la désinformation pouvait frapper un pays qui se révoltait devant l'Empire, comme on dit classiquement. Pour ceux qui connaissent l'histoire, bon, la révolution nicaraguayenne ayant été écrasée comme il se doit, selon l'optique de l'administration américaine, je me suis après coup posé la question, mais est-ce que c'est le seul cas, etc. Donc voilà, j'ai mis le pied à La Havane un jour. Et j'ai commencé à parcourir l'île d'est en ouest, de nord au sud, en me disant qu'il y avait forcément quelque chose de différent avec ce pays. La première rencontre que j'ai faite, en fait, le premier voyage s'est pas très bien passé. J'en suis revenu avec une opinion pas très positive, pour des tas de raisons. J'aime pas la salsa, par exemple, ce qui m'a énervé, d'entendre de la salsa. Les gens, ils parlaient pas anglais, et moi, je savais pas parler espagnol. Alors, ça m'a énervé. Le service au restaurant n'était pas assez rapide, et moi j'étais habitué à ce qu'on me serve rapidement, et ça m'a énervé. Et je me suis dit, oh là là, le socialisme quand même, hein, pas terrible. Hein. Et puis finalement, un jour à Lyon, j'ai rencontré un médecin qui a été tué dans un accident d'avion, Pedro Albalat, et à qui j'ai dédié, pour ceux qui connaissent le site d'information sur Cuba que j'ai monté il y a quelques années. Pedro était un médecin chirurgien, 30 ans à l'époque, doué, très doué, il opérait sous les ordres de célèbre médecin lyonnais qui fait des greffes, là, comment il s'appelle ? Le nom m'échappe. Et il faisait des transplantations des reins. Et on s'était lié d'amitié, parce que c'était un gars que j'appréciais beaucoup, un type assez extraordinaire, un militant, un médecin et un très bon copain. Et à Cuba, il gagnait l'équivalent à l'époque de la période spéciale, on en reviendra là-dessus si vous avez des questions, il gagnait l'équivalent de, comme il disait, au marché noir, je gagne l'équivalent de 2 ananas par mois. C'était son salaire cubain. Pedro, toutes les semaines ou tous les mois, quelqu'un a essayé de l'acheter. Quand ce n'était pas les renseignements généraux qui le convoquaient pour le faire chier, quand ce n'était pas la DST qui lui offrait des sommes pour essayer de le retourner, quand ce n'était pas la gendarmerie nationale qui l'appelait pour lui dire « Tiens, tu ne voudrais pas faire sortir toute ta famille ?» Quand ce n'était pas n'importe qui et n'importe quoi, il était littéralement harcelé parce que c'était une jolie prise aurait été pour les anti-castristes. Et Pedro, pendant les années, il n'a jamais cédé. Il a fallu quand même un jour que je lui pose cette fameuse question qui me trottait dans la tête. Je lui dis « Mais Pedro, est-ce que tu as jamais rêvé de partir de Cuba ?» Parce qu'à Miami, il pouvait gagner potentiellement... on va dire sans exagérer, l'équivalent de 10 000 dollars par mois, chirurgien doué à Miami. Il en gagnait 10 à La Havane, on parle là d'une culbute de 1 pour 1000. Et Pedro, un jour, il m'a dit, ouais, bien sûr que je rêve de partir, souvent même. Mais quand je vois les enfants dans ma rue, je suis fier d'être cubain. Et le débat s'est arrêté là. J'avoue que ça a été un premier choc parce qu'il n'a pas trop développé, et j'ai vu dans son comportement quotidien, qu'il adhérait et qu'il respectait cette philosophie qu'il était en train d'appliquer. Ce n'était pas simplement du baratin, ce n'était pas une sorte de forme, un formalisme devant moi pour m'impressionner. Et petit à petit, les uns après les autres, tous les Cubains dont je respectais l'éthique morale, l'éthique quotidienne, leur façon d'agir, leur façon d'être, je me suis dit, merde, c'est pas possible, ils sont tous pro-castristes. Et tous les gens pour lesquels je n'appréciais pas du tout leur comportement quotidien, et c'était des anticastristes. À la limite, ce sont donc bien les Cubains qui m'ont petit à petit amené vers à me poser des questions en me disant, toi qui es un anticastriste primaire, comment ça se fait qu'il doit quelque chose qui t'échappe? C'est là que je suis retourné, cette fois-ci moins voyage organisé, une voiture, et je suis parti avec quelques contacts cette fois-ci. Et le point tournant a été très précis, et j'aime bien le raconter parce que c'est important, et je crois que c'est symptomatique et symbolique. Ma rencontre avec Maria. Maria était un médecin qui, à l'époque, était chargé des centres de soins pour les enfants de Tchernobyl. Ceux qui savent qu'il y a eu un accident nucléaire à Tchernobyl devraient savoir aussi que beaucoup, beaucoup d'enfants de Tchernobyl ont été envoyés à Cuba se faire soigner, gratuitement. À l'époque, ils étaient 5000. On parle de l'année 93. Les derniers chiffres que j'ai entendus, ils doivent être maintenant à plus de 15 000 enfants. Et par des relations comme ça, on me dit, ah, tu peux, t'as l'occasion de parler avec Maria. Je dis, oh ouais, je veux bien rencontrer. Je répète les mots qui me passaient dans la tête à l'époque. J'aimerais bien rencontrer un apparatchik. Un apparatchik. Voilà, pourquoi pas. Et on me présente une dame charmante qui dit, je peux vous consacrer un quart d'heure, qu'est-ce que vous voulez savoir? Et de questions, de fil en aiguille, etc., etc. On a finalement discuté pendant 2-3 heures. Elle avait oublié qu'elle avait qu'un quart d'heure à me consacrer. Elle m'a expliqué ce qui se passait, comment les Cubains recevaient les enfants, etc. C'est intéressant comme rencontre. Jusqu'au moment où elle regarde sa montre et me dit, écoutez, je suis désolé, je dois vous quitter, il y a un avion qui arrive, qui m'apporte 200 enfants d'Ukraine supplémentaires, et je ne sais pas encore où je vais les mettre. Nous étions à l'époque dans probablement la pire période économique qu'a connue Cuba. Et quand je parle de pire période économique, je parle de limite famine. J'ai des amis qui allaient travailler avec un verre d'eau sucrée le matin, sans savoir s'ils allaient manger à midi et sans trop savoir ce qu'ils allaient manger le soir. Une période très difficile. Nous étions donc en pleine période spéciale, la période noire des années 90. Donc elle me dit, il y a encore 200 enfants qui arrivent et je ne sais pas quoi en faire. Et d'un seul coup, je me suis rappelé qu'une semaine auparavant, j'avais lu dans la presse que l'Ukraine, donc le pays où se trouve le Tchernobyl, avait voté en faveur d'une résolution aux Nations Unies condamnant Cuba pour les atteintes aux droits de l'homme. Résolution qui avait été présentée par les États-Unis, comme il se doit, votée par quelques pingouins, comme ça se fait généralement, et les deux ou trois pays serviles. Et l'Ukraine, d'un seul coup, qui lève la main et qui condamne Cuba pour les atteintes aux droits de l'homme, une semaine auparavant, deux semaines. Et je pose la question à Maria, je dis, mais au fait, l'Ukraine ne vous a pas condamné pour atteinte aux droits de l'homme? Elle me dit, oui. Et les enfants, ils vous envoient quand même des enfants? Elle me dit, oui. Et j'ai eu cette question qui m'a coûté très cher et que je ne regrette pas d'avoir posée in fine. Je lui ai dit, et vous auriez, je pense, posé la même question à ma place, et vous les acceptez? Et elle m'a regardé avec ce regard qui m'a fait comprendre que j'avais perdu toute l'estime que j'avais gagnée péniblement pendant 3 heures avec elle. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit juste une phrase avant de sortir, elle m'a dit « c'est pas la faute des enfants ». Et j'ai compris que j'avais pris une des plus belles claques de ma vie, mais c'est une de ces claques qui grandit un homme. Et je sais bien que c'est la réponse de Maria à Victor, mais je pense in fine, avec le recul, que c'est la réponse de Cuba à l'Occident tout entier. Que cette phrase en elle-même résume l'essence même de la révolution cubaine. Aussi bien du point de vue éthique que du point de vue de l'efficacité. On agit et on respecte à 100% l'éthique. On ne joue pas avec, on ne marchande pas son éthique, on ne marchande pas ses principes. Je vous parle de Maria parce que c'était la première, celle qui m'a fait basculer. Je suis sorti de là, j'avais les larmes aux yeux. Je les ai un peu aujourd'hui encore en y repensant parce qu'il y a eu d'autres histoires et d'autres Cubains que j'ai rencontrés sur le chemin. Tout ça pour dire, je me suis rendu compte à quel point j'étais un con avant. Et si j'avais une mission sur cette terre, c'est de rendre hommage à des Pedro Albalaté, à des Maria, et à tous les Africains, dont des amis à moi, qui sont allés mourir dans différents coins du monde pour défendre cette révolution. Et ça me fait mal au cœur de savoir à quel point, à une époque où on est justement en train de flotter un peu dans la gauche française, en train de rechercher des valeurs, rechercher des repères, il y a un pays qui pendant 50 ans s'est fait cracher dessus par des médias qui aujourd'hui, ces médias par exemple, vont oublier pendant 15 jours de nous annoncer qu'il y a un département français qui est paralysé par une grève, qui finissent par nous mentionner le Guadeloupe, vous pouvez imaginer à peine les tonnes de saloperies déversées et déformées par rapport à un pays comme Cuba, où ils sont en train de se battre depuis 50 ans. Et si, à la question qu'on m'a souvent posée, est-ce que cette révolution va survivre? Est-ce que cette révolution va continuer? J'ai toujours tendance à dire, mais cette révolution, elle a déjà gagné sa place dans l'histoire. Et ceux qui ont fait cette révolution, d'avoir résisté 50 ans dans les conditions qui étaient les leurs, méritent déjà leur place sur le podium de l'histoire et des révolutions mondiales. J'ai fait mon béaba par rapport à Maria, par rapport à Pedro. J'espère leur avoir rendu un hommage. Et je termine souvent mes premières interventions en disant que, in fine, avec le recul, je me rends compte à quel point, suite à une question qu'on m'avait posée, on m'a dit « Mais pourquoi tu aides Cuba ?» Et je me suis rendu compte, c'est pas moi qui aide Cuba, c'est les Cubains qui m'aident. C'est Cuba qui m'aide à espérer, c'est Cuba qui m'aide à tenir, c'est Cuba qui m'aide à comprendre des tas de questions de politique internationale et qui me permettent de faire le tri. Parce qu'ils ont, s'il y a une chose qu'ils ont appris, c'est comment résister, comment analyser et surtout le pourquoi faire. Donc voilà, je rends hommage à ce pays, à ce peuple. Je ne suis pas un admirateur, je dis souvent que les Cubains, à titre individuel, m'exaspèrent, mais en tant que peuple, je leur rends hommage et je les salue bien bas.
Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour être ici dans cette belle salle, avec cette ambiance de camaraderie. Il y a quelque chose qui m'a touché aussi aujourd'hui, il y a quelques moments, quelques minutes. Vraiment touché. C'est les mots, les paroles, les témoignages de Victor. Vraiment, j'étais ému pendant que je l'ai entendu. Et je l'ai connu il y a quelques temps. Vraiment, après que je l'ai écouté, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut parler de plus sur Cuba. Et surtout, l'autre chose, je suis colombien, parce qu'il y a des gens qui croient que je suis cubain, je suis colombien. Pourquoi on aime cette île? Pourquoi on aime cette révolution? Quand j'ai entendu parler à Victor, avec sa famille, sa façon de s'exprimer, vemos a quelque chose que, como latino-américain, como une personne qui aime cette révolution avec tous ses erreurs, avec toutes ses imperfections, avec la folie de Cuba, comme je l'ai dit, cette tribu cubaine, parce que même que nous sommes je suis latino-américain et Cuba appartient à l'Amérique latine, c'est une société tellement particulière, tellement latino-américaine et tellement différente que je ne sais pas comment on finit pour aimer cette révolution et des fois cette révolution et son peuple. Mais aussi on arrive à comprendre pourquoi il y a des gens qui ont la haine contre cette révolution. Des gens qui détestent cette révolution simplement parce que... Comme ça? Parce que oui. Parce que j'ai arrivé à demander aux gens qui détestent cette révolution, pourquoi tu détestes la révolution cubaine? Parce que oui. Mais pourquoi? Parce que oui. Parce que je les déteste, mais pas. Mais avec la haine totale contre cette révolution. Oui, cette révolution, c'est tout à fait différente. C'est une révolution communiste, mais quand on arrive là-bas, pour les gens que je connais la révolution cubaine il y a longtemps, mais les gens qui, en Europe ou en Amérique latine, se disent communistes, et arrivent à cette île, cette petite île du Caribe, la première chose est que pourquoi Cuba c'est communiste? Non, parce qu'avec cette idée qu'il y a sur le communisme, que les gens ne rigolent pas, qu'il n'y a pas de créativité, que la beauté c'est quelque chose à côté, il y a des gens qui se croient communistes et pensent comme ça. Je le sais. Pas seulement en Europe, en Amérique latine aussi. Il y a des gens communistes qui se croient que rigoler c'est contre-révolutionnaire. Que aimer c'est contre-révolutionnaire et profiter de la vie c'est contre-révolutionnaire. Je crois que je ne me trompe pas, il y a des gens comme ça. Mais alors quand on arrive à Cuba, ou les gens qui ne connaissent pas Cuba, ils arrivent avec cette idée que Cuba c'est le paradis, ou que Cuba c'est une Il communiste, il communiste, comme le communiste doit être, je ne sais pas, les gens comme les plus grands carrés, qui ne rigolent pas, qui ne dansent pas. Et on arrive là-bas, et on trouve des latino-américains qui rigolent, qui adorent le sexe, qui adorent les ronds, qui adorent danser, qui adorent... Je regarde, il y a des gens, parce que je les ai entendus, je parlais, ils n'arrivent pas à comprendre cette révolution et cette société. Parce que c'est un mélange, c'est un mélange de beaucoup de choses. Et je vous assure que c'est différent à la société latino-américaine, mais il se ressemble à la société latino-américaine, il continue à être latino-américaine, mais c'est différent. Ils sont différents. Et en plus, il y a, pendant des années, il y a déjà 50 ans, toute une campagne tellement incroyable et dégueulasse contre la révolution cubaine. Je ne sais pas si vous savez, mais on arrivait à dire, et aujourd'hui il y a encore des gens en Amérique latine, je ne sais pas en Europe, mais il y a encore des gens en Amérique latine qui croient que Fidel Castro a volé les enfants cubains, le pagan, pour les tuer et faire des, comment s'appelle, des conserves, des boîtes de conserve. Des boîtes de conserve. Je vous assure qu'il avait, des publicités, des campagnes contre la révolution, qu'on dit ça. Alors, si vous parlez avec la plupart des latino-américains, tout le monde, il y a une grande quantité de latino-américains qui croient que là-bas, il y a encore l'esclavage, que les gens en Cuba ne parlent pas, qu'ils ne dansent pas, et quand ils débarquent là-bas, on se rend compte qu'à Cuba, même avec toutes ces quantités de problèmes qu'il y a, non, parce qu'on croit que parce que c'est la révolution doit être parfaite, et tout le monde oublie que d'un côté c'est un pays qui n'a pas de ressources stratégiques, que ce n'est pas un pays riche, mais de l'autre côté que la révolution s'est faite pour des êtres humains, et les êtres humains sont imparfaits. Alors évidemment, on doit avoir des erreurs. Même si, jour après jour, vous voudriez avoir une révolution parfaite, mais ça, bon, jamais. Ça sera possible à Cuba ou ailleurs. Parce que les révolutions sont faites par des êtres humains imparfaits. Alors, je voudrais avoir ce témoignage de Victor, un papier, parce que vraiment ça m'a touché, vraiment beaucoup. C'est qu'il a... Il a dit de cette petite île que nous adorons et que nous faisons de temps en temps quelque chose pour cette révolution. Un jour d'octobre, le mois d'octobre dernier, nous avons l'idée de publier un livre sur la révolution cubaine, sur les 50 ans de la révolution cubaine. Imaginez-vous, c'était à la fin du mois d'octobre pour faire un livre. Surtout pour traduire les textes, ou la plupart des textes, et faire la maquette, l'envoyer à l'imprimeur et tout ça, ça prend du temps. Mais nous l'avons fait. Surtout parce qu'il y avait des traductrices et un traducteur qui ont travaillé comme des folles pour faire ça, de travail. Alors il y a ici de textes inédits, d'interviews inédits, des photos plus ou moins connues, des textes plus ou moins connus. Il y a des textes de Fidel et de Raúl Castro, Le Che, de Camilo Cienfuegos, mais aussi il y a des textes de Eduardo Galeano, de Le Prêtre belge François Houtard. Il y a un très bel texte sur Fidel Castro de Pierre Richard, et de Maurice Lemoine, Le Che, rédacteur en chef du Monde Diplomatique, de Manu Chao, de Danny Glover, de Madame Danielle Mitterrand, de la fille de Raúl Castro, de Mariela Castro, de Gabriel García Márquez. Aussi, il y a un texte très particulier, tout à fait, une interview de Ronnie Brauman, il y a, je ne sais pas combien de personnes le connaissent, a été le fondateur de Médecins Sans Frontières, mais aussi a été le premier président et directeur de Reporters Sans Frontières. Il parle pourquoi il a quitté Reporters sans frontières. C'est un texte très dur, surtout parce qu'il parle vraiment. C'est une personne qui est très respectée ici, au niveau des ONG en France. Il parle pourquoi il a quitté Reporters sans frontières, et surtout il parle de son directeur, Robert Ménard, parce que je crois que s'il y a une ONG qui a fait mal à Cuba et qui s'est acharné contre Cuba, c'est Reporters sans frontières. Il n'y a pas un fil concret et clair de ce livre. Il y a tout ici, il y a des textes qui touchent même la religion. Il y a beaucoup de textes différents, pas tellement longs. Il y a un texte très particulier parce que nous savons que Fidel Castro, il a parlé beaucoup, mais il arrivait à parler combien? 7 heures, non? 7 heures. Je ne sais pas comment il a fait. C'est incroyable. Mais tout le monde, oui, se rappelle de ce texte de dialogue, de conversation, de discours de Fidel Castro, comme ça, tellement politique. Mais quand on commence vraiment à regarder le texte de Fidel Castro, il parle aux gens d'une façon incroyable. Alors ici, il y a un texte, un extrait d'un discours de l'année 2005 à l'Université de La Habana, qui vraiment montre que ce monsieur, il n'y a pas un cerveau, il a un ordinateur, un disque dur incroyable dans son cerveau. Il fait des multiplications, il fait des additions d'un moment à l'autre, incroyable. Il parle avec les gens d'une façon sensationnelle. Il n'y a pas, je ne connais pas un autre chef de gouvernement au monde et dans l'histoire comme Fidel Castro. Je crois que si les oppositeurs à la révolution cubaine, les gens qui détestent Fidel Castro, je crois que même s'ils sont intelligents et s'ils sont honnêtes, ils doivent reconnaître que ce personnage vraiment sont personnes incroyables. Il y a ce texte, cet extrait de ce discours, de quelques loin, bien large aussi, je crois que c'était 4 heures, mais c'est vraiment comme il a discuté avec les étudiants pour diminuer le consomme d'électricité à Cuba. La consommation d'électricité à Cuba. Et, bon, je vous invite à acheter ce livre. La seule chose que j'ai fait, c'est la coordination de ce texte, de ce livre. Je vous invite à lire ce travail. Merci beaucoup.
Buenas noches, Radio Campus celebra el 50 aniversario de la Revolución Cubana.